Bonjour tout le monde. Alors, ça y est, on est en direct. Aujourd'hui, c'est un direct impromptu qui a suivi les déboires de Tout le monde en parle. J'ai décidé d'en parler. Tout le monde ne parlait que de ça lundi matin sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets en contexte. Il y a eu des invités à Tout le monde en parle qui ne cadraient pas dans la pensée unique, ce qui est déjà un prodige en soi. Ça arrive à peu près jamais. Et donc, ça a créé un tollé. Il y a eu des signatures, une pétition qui a été mise en ligne. Il y a eu plus de 25 000 signatures au moment de l'enregistrement, le dimanche soir, pour que ces gars-là n'aient pas de parole. On parlait de Julien Bournival et de Joël Megwerk, qui sont considérés dans un documentaire qui s'appelle Alpha comme des influenceurs masculinistes dans cette mouvance anti-féministe, finalement, et qui est une mouvance que je vois monter depuis plusieurs années qui m'intrigue. C'est un phénomène dans la société et j'avais envie de le comprendre. Donc, j'ai écouté l'entrevue, tout le monde en parle en disant ça va être intéressant. Mais j'ai vite compris que l'angle de ceux qui étaient sur le plateau, ce n'était pas de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Ils étaient choqués et ils voulaient juste aller prêcher le bon, la bien-pensance et la morale dans le cerveau de cet homme perdu qui sera avec nous dans quelques secondes. Alors, mon but aujourd'hui en recevant Julien Bournival, ce n'est pas de créer, en fait, ce n'est pas de faire une entrevue complaisante, ce n'est pas d'y donner raison sur toute la ligne, c'est de l'entendre. Parce qu'on est dans la société et c'est important de comprendre les courants de société. Et il incarne un courant de société qui est de plus en plus, qui est en essor. Puis moi, je trouve ça super important de comprendre c'est quoi cette mouvance-là. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous êtes en direct, vous êtes nombreux dans le chat. Je vous vois déjà. Bonjour à tout le monde qui est là. Vous pourrez poser vos questions, intervenir. Et voilà, c'est pour ça que je vais le faire en direct. Je voulais que ce soit transparent. Je suis sûre que Julien est prêt à se prêter au jeu. Donc, salut Julien.
Allô, hello.
Alors, ton micro, juste pour mettre en contexte, tu as eu des problèmes de micro, mais merci d'être là, c'est pas grave, les gens vont comprendre, ils sont capables d'en prendre, je suis certaine. Tu as eu une grosse semaine?
Ouais, correct.
Comment tu vas?
Spécial. Je vais très bien, honnêtement. Comment je pourrais dire? Je l'ai dit dans une vidéo, mais c'est vraiment comme ça que je me sens. À la fin de la journée, je sais très bien qui je suis. Je sais très bien que mes valeurs ne sont pas dangereuses. Moi, ce qui compte à la fin de la journée, c'est est-ce que ma femme, mes parents, mes partners, mon staff sont fiers de moi? Si oui, le reste du monde, honnêtement, leur opinion, ils me passent 10 pieds par-dessus la tête. Dans le sens que la plupart des gens que je vois en ligne qui viennent m'envoyer de la haine, puis soit dit en passant, je reçois beaucoup plus d'amour que de haine parce que je pense que je représente une partie de la population qui est tannée de se faire mettre au silence. Puis comme d'habitude, tu as juste une infime minorité de la population qui crie plus fort que les autres. Mais les gens qui viennent m'envoyer de la haine, ils ont clairement pas écouté le documentaire parce qu'ils font référence à des choses que je n'ai jamais dit, puis ils n'ont jamais écouté mes propos parce qu'ils font référence à des choses qui n'ont pas rapport avec moi. Fait que tu sais, moi, je me dis, si tu te fais une opinion par rapport au titre d'un article, honnêtement, ton opinion, il ne vaut pas grand-chose pour moi. Tu comprends? Fait que
Ouais, à
je vis bien
100%.
avec tout ça.
Ouais, ben écoute, t'es bon parce que, tu sais, je pense pas que tu avais encore l'habitude de cette présence médiatique-là. On t'a présenté quand même dans le documentaire comme étant un influenceur, mais ton influence était plutôt modeste. Quand je t'ai ajouté lundi, tu étais à 7 000 abonnés sur Instagram. Donc, pour remettre en contexte, tu n'étais pas Marie-Lou, là, c'est 2, 3 fois par jour. Alors, ton
Un
influence, c'est.
influenceur.
Non, c'est ça. T'es plus. Tu te présentes dans le documentaire, finalement, toi, comme un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, mets-nous en contexte. Qu'est-ce que tu entreprends exactement quand tu es un entrepreneur?
À fond, je suis un franchiseur dans le domaine de l'efficacité énergétique. Tout ce qui a trait à améliorer l'efficacité énergétique d'une maison, diminuer ses coûts d'opération, du chauffage, de l'isolation, des panneaux solaires, de la filtration d'eau. On fait ça au Canada, aux États-Unis. On est un distributeur aussi de certains produits. Puis moi, en vrai, là, mon message à la base, c'est pour ça que là, tout le monde en parle, m'ont posé la question, c'est quoi pour toi un alpha? J'étais comme. Vous faites partie de mon discours. Je me suis jamais vraiment adressé aux hommes parce que les hommes doivent être X, Y, Z. Non, moi, je suis vraiment un libertarien. Puis dans ma tête, c'est comme vivre et laisser vivre. Je m'adresse aux entrepreneurs, okay, parce que je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus noble dans la vie qu'être un entrepreneur. Parce que ça veut dire que tu amènes des produits et des services sur le marché que les gens ont besoin. Ça veut dire aussi que tu crées des opportunités, donc tu permets à des gens de mettre du pain sur la table. Puis, ben, tu montres l'exemple. Puis moi, ce que j'ai toujours déploré au Québec, c'est qu'on a la fâcheuse habitude de penser que si tu as du succès, c'est parce que tu es un riche héritier, tu as gagné à la loterie ou tu es un crosseur. Tu n'es pas les deux premiers, tu es le troisième. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que moi, je me suis dit, à un moment donné, ça suffit. C'est pas bon pour le développement économique de notre nation. Donc, je pense que c'est important de redonner les lettres de noblesse à l'entrepreneuriat et de montrer que pour réussir, là, dans le fond, c'est très simple. C'est une question d'être un humain de qualité. Traite les gens comme t'aimerais être traité and you're gonna fucking win. Ça, là, ouais, c'est l'essence de mon message, mettons. Mm-hmm.
Puis quand tu as parti ton Instagram, parce que tu as quand même, je te coupe, je ne sais pas si tu avais fini. Je coupe, mais...
Non, vas-y.
OK. Dans le fond,
il y a... Je peux décoller, moi, si tu ne me coupes pas. Fait que...
OK. Parce que ça choque le monde, mais c'est ça, tu sais, je veux juste quand même... sur Instagram, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, je n'ai pas été regarder l'entièreté de ce que tu fais, mais ce qu'on voit... C'est que tu t'inscris aussi dans une mouvance, une espèce de mode où il y a beaucoup de gens qui sont un peu coach de vie, là, entre guillemets, coach de vie, où tu nous donnes des conseils comment réussir un peu dans la vie, mais il y a quelque chose de très d'hyper matérialiste qui va donc aller dans la lignée aussi de Andrew Tate et compagnie. Mais tu sais, quand je t'entends parler, j'entends un gars super raisonnable, puis je me joins à beaucoup de choses que tu dis. Mais il y a cette espèce de côté un peu fake d'Instagram où tout le monde montre qu'ils sont donc bien beaux dans une vie donc bien parfaite qui, moi, peut me gosser un peu. Je serais curieuse d'entendre, c'est quoi un peu ton branding sur Instagram? Comment tu vois ça quand tu fais ça?
Ben, tu vois, c'est pas du tout ce que je pense que je dégage parce que la plupart des gens qui ont déjà écouté mon contenu le savent que je suis extrêmement transparent. J'ai jamais eu de difficulté à parler des difficultés que je vivais, des adversités que j'ai traversées, des blessures d'enfance que j'ai eues. Je suis quelqu'un hyper ouvert. Puis même, dans le fond, c'est drôle parce que l'autre gars qui pensait faire un scoop par rapport à ma difficulté financière, ça fait longtemps que j'en ai parlé, tu comprends? J'étais ouais. Genre 2-3 mois, puis j'ai parlé que j'ai eu un employé malhonnête qui nous a mis dans le trou de 1 million, puis ça a causé toutes sortes de difficultés. Puis en bout de ligne, ça fit dans mon message de résilience, de genre, ouais, quand tu veux être un entrepreneur, tu vas faire face à des challenges, puis il faut que tu te retrousses les manches, puis que tu continues à avancer. Fait qu'une des raisons, en passant, pour laquelle j'ai commencé à prendre la parole, c'est parce que j'étais justement l'anti-coach. J'étais tanné, moi, de tous les coachs en ligne qui disaient que tu pouvais devenir riche en 90 jours en suivant leur méthode magique. Fait que moi, ce que j'essayais de prôner, c'était genre non, il n'y en a pas de méthode magique. Ça va être fucking dur, ça va être souffrant, ça va te prendre beaucoup plus de temps que qu'est-ce que tu penses que ça va te prendre. Puis tu vas probablement perdre des amis, tu vas perdre 1 million d'affaires. Il y a des sacrifices que tu dois faire, mais il faut que tu les vois comme étant un investissement et non un sacrifice. Fait que moi, c'était ça comme la base de mon message. Mm-hmm. J'ai jamais été... J'étais plus anti-coach, je te dirais, que le coach. Ouais. J'étais tanné. Je trouve autant que le message de genre si t'as du succès parce que t'es un riche héritier, un crosseur ou whatever, c'est nocif. Mais le message de « Hey, tu peux devenir riche en 90 jours si tu suis ma méthode magique », je trouve ça hyper nocif aussi. Parce que ils se font des fausses attentes, ils essayent de faire de quoi, ça marche pas. Puis là, au lieu de se dire « it's fucking normal », qu'est-ce qu'ils se disent? C'est « ah, ça veut dire que moi, je suis pas adéquat, ça veut dire que moi, je suis pas capable, ça veut dire que moi, c'est pas fait pour moi. »
Je n'ai pas manifesté adéquatement, donc ma visualisation positive n'était pas assez bonne, puis tout
exact.
Ça.
Exact. Fait que moi, c'est ça que je voulais défaire, de genre « non, c'est normal, tu es en train de passer à travers des périodes difficiles, puis you know what, it's part of the game. » Puis c'est une bonne nouvelle, puis n'importe qui a déjà écouté mon message, le fondement de mon message, le sait que c'est ce que je prêche, tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ça les aidait de se dire « wow, je me sens pas seul quand je t'écoute à passer à travers des périodes difficiles. »
Ben, en fait, je pense que c'est ça qui est important. Là. Je veux qu'on rentre dans tout le message du documentaire Alpha parce que dans le fond, le documentaire aurait dû s'intéresser au phénomène que tu représentes, que tu incarnes, qui est un des gars de ma génération. T'as quel âge sans indiscrétion? T'es pas même bien vieux. 36. T'es-tu dans vingtaine? Combien?
36.
Ah, on a quasiment le même âge, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, nouvellement papa, félicitations d'ailleurs. Fait que, tu sais, une mouvance, justement, déjà, c'est super conservateur maintenant d'avoir des enfants. Fait que déjà, on est comme un petit peu hors des sentiers battus. Nous avons décidé de faire des enfants dans la trentaine. Puis en plus, là, tu sais, tu retournes vers des valeurs plus conservatrices. Ça, c'est troublant pour une société pluguée sur sa TV dans des médias de gauche, qui sont de plus en plus gauche radicale et qui sont complètement déconnectés du discours plus de droite ou même centre-droite, parce qu'on ne sait même plus c'est quoi finalement. Mm-hmm. J'étais de gauche toute ma vie, puis je suis rendue soudainement de droite. Ça, pour moi, c'est juste pour qu'on... Ouais, c'est ça. Hein. Puis il y en a une méchante gang. D'ailleurs, il y a énormément de démocrates qui ont voté républicain aux dernières élections. Fait que, tu sais, on voit que le centre s'est déplacé, mm-hmm. mais la gauche s'est radicalisée et donc on n'a pas donné place à vos discours, ce que toi, tu représentes, qui est extrêmement important, je pense. Puis là, j'ai envie qu'on en parle. C'est quoi? On va y aller de façon super basique. Là. C'est quoi pour toi une femme? Puis c'est quoi pour toi un homme?
OK, bien, contrairement à la croyance populaire, là, ce qui fait que tu es un homme ou une femme, c'est pas comment tu te sens. Okay,
c'est... je sais pas si c'est plus populaire que ça, la croyance. Hein? En tout cas, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire.
Exact. C'est pas comment tu te sens, c'est des traits biologiques qui t'ont été donnés à la naissance, qui vont ensuite, pas des traits de caractéristiques qui sont propres à l'homme et à la femme et qui font les stéréotypes qu'on connaît déjà tous très bien. Bien évidemment, un stéréotype, c'est une généralisation, tu comprends? Ça ne veut pas dire que tout le monde embarque dans cette généralisation-là, mais moi, je me suis toujours dit, si tu veux bâtir une société qui se tient, tu as bâti sur la règle et non l'exception, Chris, tu comprends?
Mm-hmm, ouais.
Fait que ça, c'est comme l'essence de ce que je pense de qu'est-ce qui est un homme et une femme. Puis, admettons, tu sais, dans le documentaire, OK, check ça, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai dit la phrase... L'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes, mais sont égales en termes d'importance, hautement complémentaires. Puis quand ils travaillent ensemble, ils sont capables de faire des merveilles, notamment donner la vie et créer des civilisations.
Okay? Tu l'avais bien, tu l'as répété textuellement comme ça. Ouais, c'est bien retenu.
Ouais. J'y connais mes phrases. Comment? Puis dans le fond, la seule chose qu'ils ont gardée, c'est l'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit. Mais le problème avec
mais
ça...
C'est vrai, exact.
C'est vrai, mais OK, ce que j'ai réalisé, c'est que dans le fond, le monde, là, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de crise de vocabulaire. Dans le sens où ils interprètent pas égal en termes de compétences et d'aptitudes à la femme est inférieure. Mm-hmm. C'est pas ce que j'ai dit. Mm-hmm. J'ai dit on est différent, on est complémentaire, mais on est également important. Fait que tu sais, je veux dire, moi, dans mon entreprise, là, genre, la personne qui faisait les plus hauts revenus l'année dernière, c'était une femme. Fait que je pense pas qu'une femme ne peut pas faire preuve de leadership. Je suis conscient, par contre, que son leadership est différent du leadership d'un homme.
Exact.
Je suis conscient qu'on va bâtir des organisations qui vont être différentes. Puis, y en a-tu une qui est meilleure que l'autre? Non, c'est juste différent, puis ça prend des deux. Puis après ça, moi, je pensais que les femmes, à base, s'avaient battu pour donner le droit à la femme de choisir, même quand son choix, c'est de rester à la maison. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand la femme choisit de rester à la maison, ben, elle devient une bonne à rien. Puis c'est là, à un moment donné, où moi, je dois tracer à la ligne.
Mais attends, ça, quand tu dis ça, parce que tu l'as dit à tout le monde en parle, est-ce que c'est vraiment un jugement que tu as vécu puis que ta femme a vécu?
Mais oui. Puis non seulement ma femme a vécu puis que moi, j'ai vécu, mais que quand j'ai commencé à m'exprimer sur ces genres de choses-là, la quantité de femmes à la maison qui sont venues m'écrire pour me dire « Man, on est tellement content que tu prêches ça parce qu'on est tanné de se faire dire que dans le fond, on est... soit des bonnes à rien ou qu'on fait juste s'occuper des enfants.
OK, mais attends, mais c'est super important ce que tu es en train de dire là parce que, tu sais, je m'oriente de plus en plus vers un mode de vie où je suis « Hello veut savoir » puis « Maman à la maison ». Fait que, tu sais, c'est de plus en plus, ma vie est à la maison, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais à manger. J'essaie aussi d'être dans une mouvance où je fais à manger le plus biologique possible. Tu sais, j'ai reçu, on a parlé de microbiote avec Geneviève Labonté Chartrand à mon podcast. Tu sais, je suis vraiment comme dans essayer de comprendre. C'est important, là, j'ai deux petits êtres humains qui sont en développement, fait que je veux vraiment comprendre. Fait que tu sais, ça implique de lire des livres, de changer des habitudes. C'est difficile de changer des habitudes. Ça implique de faire des épiceries qui coûtent beaucoup plus cher, d'aller chercher ma viande directement chez l'agriculteur pour savoir vraiment. Donc là, tu trouves, cherches tes agriculteurs. J'ai tout fait ça, là. Mais donc, c'est une job à temps plein. Puis
ben oui.
Je m'aperçois, puis en plus, élever mes enfants, tu sais, comme je te dis avant qu'on commence, j'ai pas dormi de la nuit, littéralement, mon fils a été réveillé toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'il y avait, là, mais c'était vraiment pas une belle nuit. Fait que, tu sais, mais
c'est inquiété que tu rencontres un méchant de gym.
Probablement. C'est sûr. Mais non, mais honnêtement, il fait ses molaires, je pense. Mais c'était vraiment, il fait boubou. Fait que maman, elle n'a pas dormi de la nuit. Puis, mais tu sais, on continue. Là, tu sais, il faut quand même que je sois efficace aujourd'hui. Puis, tu sais, mais là, tu vis avec le pas de sommeil d'avoir des jeunes enfants. Tu commences à comprendre un peu. Comment c'est intense être parent? Comment, tu sais, c'est ça, je me disais cette nuit pendant que je dormais pas. Hey, c'est un défi pas ordinaire être parent. Puis on a beau nous le dire, on le comprend pas tant qu'on n'est pas dedans. Puis là, ce que je t'entends dire, parce que moi, je le vis pas de la même façon que toi, mais c'est à quel point c'est pas valorisé dans notre société. On dirait que j'en prenais un petit peu conscience, mais pas tant. Mais là, je t'entends dire à quel point c'est des mots forts quand même, dire t'es bonne à rien ou c'est moindre comme valeur ouais. d'être à la maison. Je trouve ça vraiment grave ce que ça dit de notre société.
Ben, mais non, tant qu'à moi, c'est le travail le plus important qu'on a dans la société. Genre, en fait, c'est le travail le plus noble, le plus difficile et le plus important. Puis selon moi, tous les travaux sont secondaires à ceux-là. Genre, tous les autres jobs qui existent dans la vie, là, en vrai, sont là pour supporter celle de donner la vie et de continuer la civilisation. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait comme, quand on est rendu à dévaluer cette job-là, ben, je trouve ça un peu catastrophique, aberrant. Mettons.
Vraiment, mais ça montre aussi à quel point on a perdu des repères dans notre société, parce que des valeurs conservatrices, ça n'en prend. C'est Christian Dufour qui disait en entrevue, et puis je suis full d'accord avec lui, il disait... Tu sais, on n'arrête pas de démoniser les méchants conservateurs, mais qui voudrait d'une auto qui a juste un accélérateur? Ça en prend un frein aussi, tu sais, ça fait partie de l'équilibre de la société. Puis en ce moment, c'est comme si on démonise constamment ce frein de la société, alors qu'on est tellement la pédale dans le fond qu'il est vraiment temps qu'on applique le frein. Là. Ça prend des gens qui reviennent aux valeurs familiales, qui reviennent à avoir envie d'avoir leur terre, une serre, faire à manger eux-mêmes, tu sais, toutes ces choses-là. De toute façon, l'inflation est tellement mongole que, je veux dire, on n'a comme pas le choix de cuisiner vraiment plus puis aller moins au restaurant. Mais c'est comme si, là, si mettons qu'on vient, tout le monde en parle, ce que j'ai trouvé qui était vraiment problématique, même dans le documentaire, c'est que l'angle, c'était pas vraiment de s'amener avec curiosité, ouverture d'esprit sur ce phénomène de société, c'était vraiment de faire quelque chose de outrageux, sensationnaliste et de vous faire mal paraître en vous citant, là, c'est mon opinion, là, mais je trouvais que vous étiez beaucoup cité hors contexte. Puis, tu sais, je suis sûre que tu amènes ta blonde au restaurant des fois, mais c'était pas ça qu'on a vu. Là. C'était toi qui tire de la R15. Donc, on est vraiment dans des clichés, des stéréotypes.
Le pire, là, c'est que Simon, c'est lui qui voulait qu'on aille tirer du gun. Puis, a tiré avec moi.
Simon étant le réalisateur, là, pour
Simon étant le réalisateur, c'est lui qui voulait qu'on aille tirer du gun. Puis, il en a tiré avec moi. Puis, il a son permis de gun. Mais moi, dans le fond, puis moi, si je tire du gun, mais dans le fond, c'est parce que je suis en train de planifier une tuerie de masse. Parce que c'est ça que Francis Dupuy-Déry a essayé d'insinuer à travers tout ça. Fait que, oui, genre, t'as entièrement raison. Puis, est-ce que, je vois que tu lis beaucoup de livres, toi aussi. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Fourth Turning?
Non.
Je t'encourage vraiment fortement à le lire et j'encourage tout le monde qui s'intéresse à ce qu'on est en train de parler à le lire parce que eux, qu'est-ce qu'ils parlent, c'est que l'histoire est cyclique. Okay, j'embarquais pas dans la thèse complète. Si tu veux, on aurait une autre discussion par rapport à ça parce qu'honnêtement, on pourrait parler genre de 1 heure, okay, de juste cette thèse-là. Mais en gros, ce qui arrive, c'est que l'histoire est cyclique. On répète tout le temps les mêmes erreurs. À chaque 100 ans, il y a toujours la même grande crise qui arrive, qui est soit une grosse guerre mondiale, soit, dans le fond, une grosse crise économique. Puis les gars, en passant, qui ont écrit ce livre-là, ils l'ont écrit en 1997, puis ils ont prédit la pandémie, ils ont prédit la crise financière de 2008, puis ils ont prédit que de 2020 à 2030, ça va être le climax de cette espèce de crise-là qui arrive à toutes les 100 ans. Puis eux, ce qu'ils expliquent, c'est que, en gros, ben exemple concret, là, sans embarquer trop dans la théorie, là, mettons là, les GI quand ils sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale. Ces personnes-là, là, ils avaient des rôles très, très, très traditionnels. Fait que quand ils ont pris le contrôle des institutions, quand ils sont devenus à l'âge de prendre le contrôle des institutions, ils ont créé des institutions hyper fonctionnelles, hyper rigides, par exemple, qui ont créé probablement la société la plus prospère qu'on connaît. Quand les baby boomers sont venus au monde, eux sont nés au monde dans une société qui était trop rigide. Fait qu'eux, ils avaient besoin d'un éveil spirituel. Quand ils sont arrivés avec cet éveil-là spirituel, puis l'émancipation de la femme, puis les droits de l'homme, c'était nécessaire à l'époque. Sauf que quand ils sont arrivés au contrôle des institutions à leur âge, ils ont créé des institutions qui sont beaucoup trop ouvertes, puis qui, à un moment donné, sont plus fonctionnelles, puis qui créent des crises comme on est en train de vivre en ce moment. Puis quand on arrive dans cette ère de crise-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un retour vers les valeurs traditionnelles. Fait que moi, je ne vois pas ça comme étant masculiniste et féministe, puis même, c'est même pas des termes que j'utilise parce que dans ma tête, c'est comme du marxisme social. Ça implique qu'il y a une guerre de classe, mais au lieu d'être entre les riches puis les pauvres, c'est entre les hommes et les femmes. Puis c'est vraiment pas comme ça, moi, que je vois notre relation. J'ai vraiment pas peur des femmes du marché du travail. Là. Eux, ils font le documentaire puis ils essaient de faire un genre de trame où est-ce que nous, les masculinistes, ce qu'on a peur, c'est que les femmes prennent la place sur le marché du travail. J'ai vraiment pas peur de ça, en passant. Mais tout ça pour dire que en vrai, moi, de la façon dont je vois ça, c'est que il y a un swing du ballon, puis des fois, on va avoir des valeurs très progressives, puis des fois, on va avoir des valeurs très traditionnelles. Puis quand ça arrive, là, il n'y en a pas un qui est plus méchant que l'autre. Les deux sont nécessaires. Tu comprends? Fait que je suis hyper nuancé, hyper distancé. Je ne suis pas dans la diabolisation d'aucun des autres modes. Je suis juste hyper, comment je pourrais dire, factuel par rapport à ça, puis objectif. Je regarde l'histoire, puis je me dis, c'est normal qu'on ait un courant traditionnel, puis c'est pas à cause d'une guerre entre l'homme et la femme, c'est à cause d'un contexte socio-économique.
Le pendule est allé vraiment taper loin, puis c'est normal qu'il y ait un retour du balancier. Exact. Il y a quelqu'un qui pose la question, t'as dit que ta femme était carriériste, tu veux savoir dans quel domaine ta femme était?
Ma femme était dans le même domaine que moi, c'était une directrice des opérations, et moi, j'étais le directeur des ventes pour une compagnie adverse. Elle s'est réveillée un matin, elle a été à sa job, puis elle s'est rendue compte qu'il ne restait plus aucun vendeur. Puis elle s'est demandé, il était parti où les vendeurs?
Ils avaient recruté.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Finalement, je suis parti avec la directrice des opérations.
Wow, la totale, home run.
Puis au début, elle travaillait avec moi. Elle m'a aidé à bâtir mon entreprise. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on amenait les problèmes de la maison de travail. On a pris une décision ensemble que c'était mieux qu'il fallait qu'il y ait une séparation qui existe. Puis c'était soit le couple ou c'était soit la business. Puis dans le fond, elle a décidé qu'elle préférait que ce soit la business et non le couple. Puis elle m'a toujours dit, la journée que je vais avoir des enfants, je veux m'occuper des enfants et non que ce soit la voisine qui s'en occupe. Puis je pense que c'est tout à son honneur.
T'sais. À fond la caisse, vraiment. Puis tu sais, plus je vois comment notre système scolaire bat de l'aile, c'est de plus en plus très, très, très... En fait, avant même qu'on ait des enfants, c'est une discussion que j'avais déjà souvent avec mon conjoint, que je voulais faire l'école à la maison, ça. Mais en même temps, je voyais pas comment je vois toujours pas comment je vais le faire, sauf là, c'est comme en juillet, genre, que ma fille va avoir 5 ans, puis il est temps que je fasse le saut. Mais tu sais, je pense que c'est comme être parent, c'est un projet que tu apprends sur le tas au fur et à mesure que les défis se présentent. Puis l'éducation à la maison, mais tu sais, je suis 100% d'accord avec ta femme, puis je respecte vraiment, vraiment, vraiment ça, parce que vous êtes sûr que vos enfants vont avoir vos valeurs. Puis tu sais, c'est ce qu'on veut. Puis je pense qu'en ce moment, la société est tellement rendue toxique que c'est notre rôle de parent de mettre des enfants dans ce monde-là, mais aussi de les protéger, puis leur donner un esprit critique. Tu sais, je pense qu'éventuellement, ils vont être dans ce monde-là, puis il va falloir qu'ils apprennent à critiquer par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils jugent pertinent ou non, puis bon, ils vont se moduler puis se nuancer là-dedans. Là. Mon but, c'est pas de faire des petits robots qui pensent comme moi, mais je pense que c'est super important ce que ta blonde fait, puis ça en prend de plus en plus des femmes qui vont être prêtes à rester au foyer. Là, je vais m'en aller.
Je suis genre au monde de lire ce livre-là en passant. « Hold on to your kids ». C'est excellent. Ça parle de pourquoi, dans le fond, quand tu envoies tes enfants à l'école, ils perdent leurs repères. Puis là, au lieu de créer leur sentiment d'attachement face à leurs parents puis de vouloir plaire à leurs parents, ils finissent par créer leur sentiment d'attachement par rapport à leur père. Puis leur père, tu n'as aucune idée de... Puis pas le père, genre le père de famille, le P-A-I-R, dans le fond, leurs peers. Puis que c'est hautement nocif pour leur développement. Puis à toutes les personnes qui ont envie d'être un parent à la maison, en passant, là, ça prend à peu près 1 à 2 heures par jour par le curriculum.
C'est ça, exactement. C'est vraiment possible. D'ailleurs, pour ceux, tu sais, comme on parle de ce sujet-là, j'ai fait 2 podcasts sur le sujet, sur l'école à la maison. Donc, justement, une avec la présidente de la CED, de l'Association québécoise de l'école à domicile, qui s'appelle Marine. Puis, je posais toutes les questions qu'un parent se pose. Là, fait que, tu sais, si vous voulez vous faire une tête là-dessus, je vous invite à aller écouter. C'est 1 heure.
Écoute, c'est le segment qui a le plus de croissance d'éducation aux États-Unis.
Ah oui, hein? Ça me surprend pas. Ben c'est ça, il y a quelqu'un qui fait écrire dans les commentaires, Bianca dit aux États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé l'école à la maison. Toi, tu es parti vivre aux États-Unis en 2021, si je ne m'abuse.
Exact.
Tu en avais un petit peu assez de la CAQ, des mandats. Je pense que c'est vraiment ça, là, c'est la pandémie qui t'a fait fuir. Tu fais partie de ces Québécois qui sont partis à cause du climat toxique dans lequel on était?
Oui, en gros, j'étais au Mexique avec ma femme en 2021. On était supposé partir pendant 10 jours. On n'était pas supposé d'aller aux États-Unis. Puis, ils ont mis la restriction de « tu devais te faire tester pour revenir au pays ». Puis honnêtement, j'étais assez intelligent pour comprendre l'ingénierie sociale. Puis, j'étais assez intelligent pour comprendre c'est quoi la prochaine étape, si c'est ça l'étape que tu es en train de mettre en place. Puis, je me suis dit, moi, je ne me prêterai pas à votre jeu. Fait que j'ai simplement décidé de prendre un one-way flight, de canceller le vol qu'on avait, puis de s'en aller directement aux États-Unis. Puis à ce moment-là, j'ai eu une conversation avec tous les membres de mon équipe, les gens avec qui je travaille, parce qu'ils sont hyper importants pour moi. Puis j'ai toujours eu un énorme sentiment de responsabilité morale face à eux. J'ai eu la conversation avec eux, puis je leur ai dit, écoutez, moi, ma job principale, c'est de m'assurer qu'on a tous un endroit dans lequel on va être capable de prospérer pour les 10 à 20 prochaines années. C'est ma job principale en tant qu'entrepreneur. Puis quand je regarde les décisions qu'on est en train de prendre au Canada, je sais pas si je vais réellement être capable de vous offrir ça. Fait que ma job, c'est d'aller créer un safety à quelque part ailleurs que le Canada pour que si jamais Canada turns into shit, puis que les gens qui ont envie de s'expatrier, ben qu'on soit capable de le faire. Puis on a expatrié des gens avec nous, on a donné des opportunités, puis on est rendu avec des bureaux à Tampa Bay, au Maryland, on est en train d'en ouvrir d'autres. Mais tout ça pour dire que tout ça est démarré du fait que je voulais préserver ma business, l'intégrité de mon monde, leur capacité à pouvoir grandir, puis en même temps, moi, j'avais des concepts, des valeurs, puis je ne voulais pas plier dessus.
Puis comment, on pourrait en parler, je pourrais poser toutes les questions, comment c'est immigré aux États-Unis, mais est-ce que, en gros, j'aurais juste envie de savoir, est-ce que t'es bien, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu t'ennuies du Québec?
Non, écoute, je pense que je suis plus un Américain qu'un Canadien, puis tout ça a commencé durant la pandémie parce que je vais commencer à partager des affaires en ligne par rapport à la pandémie, puis je me faisais censurer. À cette époque-là, j'avais des amis aux États-Unis, des partenaires, puis des amis aussi au Canada. Puis, dans le fond, j'avais aussi un centre d'appel au Maroc. Puis, j'avais appelé mon partner au Maroc, puis j'étais outré. J'en revenais pas qu'on se fasse censurer. Puis, honnêtement, moi, d'habitude, quand je m'enflamme, j'ai tendance à amener les gens à s'enflammer avec moi. Puis, ça avait vraiment pas l'air de faire un pli sur la poche. Puis, j'étais comme, on dirait que tu comprends pas. Genre, tu sais, la censure, c'est la liberté d'expression, c'est le fondement de toutes les autres libertés.
Premier amendement, là.
Exact. Puis il disait, ben, compte-toi chanceux, parce qu'au Maroc, si tu parles contre le régime, on va te couper la tête. Je suis comme, parce que c'est une monarchie. Puis il exagère peut-être un peu.
Une monarchie, je pense pas que c'est si radical que ça. Là. C'est quand même pas extrêmement conservateur, le Maroc, mais bon, OK.
Ça l'est pas. C'était une exagération probablement qu'il faisait. Mais ça reste que c'était très figuré. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, oh, it's a slippery slope. On commence en te coupant la liberté d'expression, puis à la fin, on te coupe la tête. T'sais. Fait que j'étais comme, là, j'ai regardé le Maroc. Là, je regardais mes amis au Canada, puis il n'y avait personne qui était outré par rapport à la censure, puis les seules personnes que je voyais outrées ouvertement par rapport à la censure, c'est aux États-Unis. Moi, j'étais comme, you know what? Peut-être que je suis plus américain que je suis canadien, parce qu'en bout de ligne, les États-Unis, c'est beaucoup plus une idée qu'autre chose. Là. C'est une idée qui a permis d'attirer des gens de partout dans le monde parce que ça leur permettait d'être libres. Fait que je me suis dit, je suis peut-être plus américain que je suis canadien. Puis honnêtement, je me sens tellement bien ici. C'est beaucoup plus proche de mes valeurs. Les gens sont tellement heureux. Ils te sourient, ils te saluent.
Il y a une courtoisie aux États-Unis qui est vraiment pas ici. Puis tu sais, on voit qu'on est un peuple qui va pas bien. Là, vraiment, quand tu sors aux États puis que tu reviens. Moi, ça m'a vraiment choquée. J'ai été aux États-Unis cet été à la mer, là, puis quand j'avais fait une montée de lait là-dessus, puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup de réactions, puis j'avais vu que je n'étais pas la seule qui trouvait ça vraiment triste de voir comment le Québec avait perdu son... Premièrement, c'est son sang latin, là, tu sais, d'être... tout le monde se parle, tout le monde, tu sais, le voisin t'ouvre la porte, puis là, on n'est vraiment pas là-dedans. On est vraiment comme dans quelque chose d'hyper... chacun pour soi, la délation, tout le monde se regarde, tout le monde se prend pour une police. En tout cas, moi, c'est vraiment pas comme toi, là, c'est pas des valeurs qui... Mais je trouve que ce ne sont pas non plus des valeurs québécoises. Je sais pas ce qui s'est passé avec le peuple au Québec, mais tu vois, c'est ça, c'est cette espèce de radicalisation, cet hypnotisme dans lequel on est qui fait que il y a un retour du balan normal, puis ce que tu vis, ce que tu incarnes en ce moment, tu sais, je suis sur ma chaîne parce que j'ai des positions ouvertement contre-courant, mais je vois qu'on est nombreux à penser comme ça. Puis on est nombreux à avoir envie de quitter le Québec. Puis tu sais, des fois, je me dis, c'est dommage parce que mon Québec, c'est mes racines, mais en même temps, nous aussi, on y pense beaucoup à partir parce qu'on étouffe bien raide ici. Hein, c'est vraiment ça, c'est un sentiment d'étouffer.
Je te suis à 100%. Ouais, c'est ça.
Mais écoute, on pourrait parler de la pandémie et tout ça, mais j'ai une question que je voulais te poser, puis je tiens vraiment à ce que tu me répondes à ça. C'est est-ce que tu savais quand tu as accepté d'être dans ce documentaire-là, quel angle il prendrait?
Écoute, je m'en doutais parce que je ne suis pas un cave. Mais.
Ah non? C'est pas ça que les médias disent de toi, pourtant.
Je m'en doutais. Ceci étant dit, Moi, là, la raison pour laquelle j'y étais, c'est parce que j'ai été sur un podcast un jour. On m'a demandé c'était quoi les rôles à ma maison. Puis j'ai parlé qu'on avait des rôles traditionnels. Puis pourquoi ça fonctionnait. Puis pourquoi ça avait fonctionné historiquement. Puis pourquoi c'était pas une mauvaise chose. Puis pourquoi, to a certain extent, c'est quand même de capitaliser sur les forces et faiblesses générales de l'homme et de la femme. Puis de nous amener à travailler ensemble là-dessus. Puis quand j'ai fait ce podcast-là, tout d'un coup, c'est la seule fois en passant que je me suis prononcé sur le rôle de l'homme et la femme. Puis genre, je faisais juste parler de mon rôle à moi, là. Tu sais, moi, comment que ça fonctionne à la maison. J'aime l'imposer aux autres. Je suis un libertarien. Ouais, ouais. You do you. I don't give a shit. Mais quand j'ai fait ça, il y a plein d'articles qui sont sortis sur moi pour dire que j'étais un misogyne, puis blablabla.
Ah,
bla.
Ouais.
Ouais, ouais. Et puis il y a des institutions qui ont décidé d'arrêter de me servir. Puis là, j'étais outré parce que j'étais comme, mais la censure, la liberté d'expression, encore une fois, c'est une valeur qui est tellement fondamentale et importante pour moi. Puis un peu comme toi, j'étais comme, j'ai mal à mon Québec parce que dans ma tête, genre, j'ai tellement d'estime pour qui on pourrait être, mais je regarde qui on est, puis j'ai une profonde déception, tu sais.
Ouais.
Puis quand c'est arrivé, mais quand ils m'ont appelé pour le documentaire, je me suis dit, you know what, ça va me donner la chance de pouvoir m'exprimer une autre fois. Puis là, cette fois-là, je le savais bien évidemment qu'il allait méditer, mais je me suis dit, je vais tellement bien m'exprimer que ça va être impossible de me mettre dans une case. Puis honnêtement, là, n'importe qui écoute le documentaire, puis qui prend soin d'écouter mes paroles à moi, là,
à toi,
pas les liens qu'ils essayent de faire avec les paroles des autres, puis mes paroles à moi, puis on fait un transcript de tout ça, il n'y a rien que je dis qui est aberrant. Là.
Non, c'est ça, c'est pas révoltant. En fait, si je peux me permettre, j'ai vu dans les commentaires cette semaine, les gens disaient franchement, qui disent que la femme se soumet à l'homme, puis que l'homme se soumet à Dieu, puis c'est pas lui qui a dit ça, c'est Joël. Puis la plupart des paroles que je considérais quand même misogynes venaient du discours plus de Joël McGuire, qui était l'autre influenceur qui devait être invité sur le plateau de Tout le monde en parle et qui finalement, ils ont coupé à la dernière minute pour le remplacer par un prof de l'UQAM. Clairement extrêmement gauchiste. Là, tu sais, quand déjà tu vois qu'il y a deux boucles d'oreilles, il doit pas être très, très mal alpha. Je vais pas être plate. Là. Il y a juste Agassi qui peut porter les boucles d'oreilles. Puis,
Mais tu sais qu'ouvertement, en passant, il le dit là, que c'est un anarchiste extrémiste, marxiste, il dit ouvertement, puis...
Attends, tu peux pas être anarchiste et être marxiste, ça marche pas. Mais en tout cas, OK, un anarchiste au sens pas du tout philosophique du terme, puis au sens...
Mais genre... le gars, là, dans le fond, il regarde tout sous le prisme d'une guerre de classe. Tout sous le prisme d'une guerre de classe.
Ouais, ouais.
Puis, tu sais, la réponse que j'ai donnée à la fin à Véro, là, puis que sur laquelle tu as rebondi en passant dans ton vidéo, puis en passant, magnifique ton vidéo, là, genre, t'as tellement bien exprimé le fait qu'on sous-entend un paquet de choses avant de me poser une question, et on impose un cadre, OK?
C'était horrible, cette question. C'était tellement méprisant, là, en tout cas, point.
Mais elle n'a pas compris ma réponse, parce que ma réponse...
Elle ne voulait pas l'écouter, elle ne t'a pas écouté.
Mais je pense même, tout le monde ne l'a pas compris, mais c'est parce que ce gars-là, okay, dit ouvertement qu'on a des différences qui sont tellement irréconciliables que ça ne sert à rien d'avoir un dialogue. Ben, entre moi et toi, là, si on ne peut pas avoir un dialogue pour régler nos différends, c'est quoi l'option qui reste?
La guerre.
La guerre, la violence, opprimer les gens, tu comprends? Mm-hmm, fait que cette personne-là, à côté de moi, dit des propos comme ça, et c'est moi qui est toxique, alors que moi, je parle de l'ouverture au dialogue. Fait que là, c'est ce parallèle que je voulais faire, c'est que vous me réprimandez ou vous me reprochez ou vous croyez que mes fils vont avoir peur de dialoguer avec moi, alors que ce que je prêche, c'est le dialogue. Puis il y a le gars à côté de moi qui dit que ça sert à rien d'avoir des dialogues, puis vous ne lui posez pas la question. Genre, ouais, double puis... standard. Incroyable.
J'ai adoré d'ailleurs que tu mettes d'en face à, je pense que c'est Mona de Grenoble.
Non, c'est Alexandre Haussan.
Okay, ah, c'est ça, on va l'appeler Alexandre Haussan. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on l'appelait Alexandre Haussan pendant ton segment. Là.
Moi, je l'ai appelé Moni parce que je n'embarque pas dans son délire.
Mais tu le connaissais-tu avant?
Non, avant d'arriver? En fait, non, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu les invités. Puis quand j'ai vu les invités, j'étais assez intelligent encore une fois pour savoir que le but, c'est de faire un dîner de con puis de me trap shot. Puis moi, mon but, okay. Tu sais, honnêtement, j'ai été à Pénélope. Puis si tu veux, on en parlera parce que ça, c'était le pire trap shot de l'histoire.
Oh my God, j'étais pas au courant, mais ça n'a pas fait parler autant, par exemple.
Non, mais c'est une couple de jours avant, mais c'était le pire trap shot de l'histoire de l'humanité. Puis quand j'ai été là-bas, j'ai réalisé exactement ce que toi, tu as dit dans ton vidéo. Quand tu vas là, tu as trois options, OK? C'est soit, dans le fond, là, que je me fais rentrer dedans puis j'ai l'air d'un imbécile parce que je suis pas capable de me défendre, mais c'est pas moi. Soit que je suis obligé de me repentir et dénoncer des choses que je ne dénoncerai jamais. Tu sais, c'est con, mais essayer de me faire dénoncer des trucs hors contexte de d'autres personnes. Ce que je déplore, c'est quand on est en train de me juger, moi, hors contexte. Je ne vais pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Là. Je vais tracer la ligne et je vais dire non, ça n'existe pas. Fait que c'est soit, dans le fond, que, comme tu as dit, toi, dans ton vidéo, tu te repentis et tu t'excuses de tous tes privilèges et de tous tes crimes, ouais. ou, moi, l'expression que j'ai trouvée, c'est « you go full Trump on them ». You go full Trump, meaning, genre, je vais les couper, je vais les interrompre, je vais dire « you are fake news », je vais montrer c'est quoi leur espèce de double standard. Puis les gens, là, ça se peut qu'il y en ait à TV qui me regardent et qui se disent « mais il était donc bien désagréable, puis il était donc bien en confrontation tout le long. » Ouais, mais tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Puis s'il y a une autre option qui existe, dites-moi là, je ne suis peut-être pas assez intelligent pour l'avoir trouvée, mais la seule option que j'ai trouvée pour être capable de expose leur lie, c'était ça, c'est d'aller Trump puis de confronter. Puis je savais que Mona allait être là. Puis je savais qu'elle allait essayer de me faire dénoncer des choses.
En tout cas, bravo d'avoir réussi à lui dire. Parce que pour moi, je pense qu'il y a un de mes abonnés, Bobby Guimond, qui l'a mis dans les commentaires sur Facebook. Il avait fait un montage de.
Non, on n'ira pas là.
Or, il n'en est rien. T'as-t-il dit? Or, il n'en est rien avec son grand vocabulaire pour te dire que c'était à double standard puis que c'était hors contexte, alors que pas du tout. C'est exactement. Tu sais, quand même dire que tu tuerais à la hache des parents qui s'opposent à la lecture du conte par des drag queens, c'est quand
même. Ça, c'est une joke. Mais les autres jokes, on n'a pas le droit. Puis après
c'était ça l'argument. C'était une joke.
Mais l'argument,
c'était pas une joke, pas en tout. Comment qu'il l'a dit?
De un, c'était pas une joke. De deux, mettons, c'est parce qu'il essayait de me faire dénoncer des affaires de texte. J'ai dit, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a des fois des affaires qui disent que c'est de l'humour. Là. Puis là, j'ai pris l'exemple de cet humour-là en disant, si vous me demandez de dénoncer cet humour-là, il faut qu'on dénonce celle-là. Puis là, tout le monde était comme, ouais, mais peut-être ce qu'il dit, c'est pas des jokes. Je suis comme, ben oui, c'est des jokes. Ouais, mais c'est pas un humoriste. Mais c'est quoi cet argument-là de mal? Dans le fond, c'est les humoristes ont le monopole de l'humour. Genre, les seules personnes qui ont le droit de faire de l'humour noir, c'est les humoristes. Moi, je suis comme double standard. Soit qu'on les dénonce toutes ou on n'en dénonce pas un. Tu comprends?
Oui. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, je t'ai trouvé bon d'être capable de le dire parce que je pense que là-dessus, tu as marqué vraiment un point. C'est que c'était. On a vu le mensonge, à quel point c'est ridicule qu'il y ait. Tout le plateau derrière lui, lui, Alexandre. Mm-hmm. Puis là, tu as MC Gilles qui se rallie à lui. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fait comment ça? Non, il a raison, l'argument se tient. Défends-toi. Comment ça que toi, tu as le droit de dire ça? Il n'y a pas eu ça du tout. Puis à place, à ce moment-là, c'était rendu quand même assez violent. Là, je trouvais que tu n'avais plus vraiment de place pour t'exprimer. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient trouvé. Il n'y avait pas eu la même perception que moi. Il y a des gens qui ont dit, j'ai écouté, j'ai trouvé que Guilla avait été quand même assez modéré. J'avoue que Guilla a été pas si pire, mais il a donné la place à toutes les autres hyènes sur le plateau. Puis tu sais, tu es arrivé, oui, sur la défensive. Il y a des gens qui te l'ont reproché d'être arrivé déjà. Mais tu sais, je pense que tu portais déjà le fait qu'il y avait une pétition, que Joël venait d'être annulé. Tu sais, tu étais au courant
c'est
de tout ça.
C'est Pénélope.
Ah, c'est Pénélope qui t'avait primé de main. Comment ça?
Ben, mettons, j'ai fait une pré-entrevue. OK, avec eux. Puis quand je suis arrivé à faire l'entrevue, qu'est-ce qui est arrivé? Une couple de trucs, là. Dans le fond, premièrement, ma fille de PR n'avait pas le droit d'être avec moi dans la salle. Puis elle a dit, pour de vrai, Julien, c'est des mangements parce que j'ai jamais vu ça d'habitude, j'ai tout le temps le droit. Ils ne voulaient même pas qu'elle soit dans la régie. Fait que là, elle était de l'autre côté de la régie, puis elle les entendait chuchoter dans l'oreille. Pénop, va pas sur ce sujet-là avec lui. Non, laisse-le pas aller là. Fait qu'ils ont fait une pré-entrevue pour voir les sujets dans lesquels j'étais fort pour ne pas me laisser aller sur ces sujets-là.
À ce point-là.
Ouais. Fait que, mais il avait peur d'avoir peur parce que dans le fond, elle est sur le même segment que le gars qui avait fait venir Didier Raoul puis qu'il s'avait fait canceller à cause de ça. Fait qu'il avait peur que Radio-Canada pense qu'on donne une tribune puis un passe-droit à ce méchant misogyne-là. Fait qu'on devait le dénoncer. On n'était encore pas là. Encore une fois, on n'était pas là pour essayer de comprendre. On était là
mais pour... On était là pour te lyncher en public. Là.
Exact. Puis honnêtement, là, depuis le début, c'est ça, là. Genre, le documentaire, ils m'ont approché en disant « on essaye de comprendre ». Après avoir vu le documentaire et les previews, puis honnêtement, ils ont été avec moi pendant des jours de temps. Là. Puis ils en ont vu des affaires que j'ai dit. Là. Puis ils savent très bien je suis qui, même qu'en passant, là, quand ils sont venus dans ma business, ils ont tout dit ouvertement « Julien, t'as de quoi être fier. Les gars que tu formes, l'éthique de travail, comment ils sont droits. » Moi, je leur ai dit « si mes petits gars, un jour, sont comme les boys que j'ai dans mon entreprise, je pense que je vais avoir fait ma job, j'ai de quoi être fier. » Puis on te dit « ben vraiment. » Puis honnêtement, là, ils étaient tous, genre comme fier de moi, puis ils me disaient que j'étais un bon gars puis un bon role model. Tellement pas ça qu'ils ont montré. Fait que, tout le long, c'était sous l'optique de on essaye de comprendre. Ben, à Pénélope, là, je l'ai bien compris que ce qu'ils essayaient, c'était pas de comprendre. Puis même dans la pré-entrevue, je m'étais ouvert à eux. Puis je leur avais dit, ils me disaient, pourquoi tu parles de résilience, Julien? J'ai dit, ben, je parle de résilience parce que je te donne un exemple. Moi, j'ai perdu 1 million cette année. J'ai eu un employé qui a été vraiment.
Tu l'avais déjà dit?
Ouais, moi, je l'aurais dit.
Fait que Francis n'était pas sur un scoop de l'année. Là, il va pas gagner un prix Pulitzer pour son enquête journalistique là-dessus cette année.
Moi, je l'ai dit sur des podcasts là, 2 mois, puis je l'ai dit à la pré-entrevue de Pénélope. Par contre, quand j'arrive à Pénélope, moi, je dis le plus gros danger qu'on a, là, ce n'est pas c'est pas moi et ma femme qui veulent vivre avec des valeurs traditionnelles ou un retour cyclique vers des valeurs traditionnelles. Parce que moi, en passant, l'essence de mon message tout le long du documentaire, là, c'était « il n'y a pas de mouvement masculiniste ». Il y a un retour vers des valeurs traditionnelles. Ce n'est pas les gars contre les femmes, c'est les hommes et les femmes qui demandent ça. C'est un contexte socio-économique. Ils l'ont jamais plugué, mais en passant, j'ai toutes les behind the scenes et je suis sur le bord des sorties en tabarnak. Ceci étant dit, Pénélope, je lui dis ça en pré-entrevue. Puis quand on arrive dans l'entrevue, je dis que le plus gros danger qu'on a en société, c'est pas moi qui veux vivre avec des valeurs traditionnelles, mais dans le fond, c'est la censure. Elle dit « Non, il n'y a pas de censure. » Je dis « Ben moi, la dernière fois qu'on a écrit des articles sur moi, on m'a coupé l'institution. » Elle dit « Oh, on t'a pas coupé l'institution, on a refusé un prêt parce que tu étais en train de faire faillite. » Je fais comme « Quoi? Oh, là, tu mélanges des cartes. Là. La censure est arrivée en 2023. Mon problème financier est arrivé en 2024. Je ne suis pas en train de faire une faillite encore. Je suis en train d'essayer de prendre une entente avec mes créanciers parce que oui, j'ai perdu 1 million, puis c'est pas facile. Mais déjà là, tu sais, mettons, j'ai fait « cheap shot ». Voyons donc que tu prends des choses que je t'ai dit hors entrevue, puis tu m'y ramènes alors qu'ils n'ont même pas rapport, puis c'est hors contexte. Fait que là, j'ai fait comme « OK, votre but, c'est pas ça, là. Votre but, ce n'est pas du tout d'essayer de comprendre. Votre but, c'est de me dénoncer. » Puis quand ils ont sorti l'article où est-ce qu'ils disaient que ma femme, c'était une soumise, puis qu'ils ont mis le nom de mon fils dans l'article.
Ils ont vraiment écrit ce mot-là?
Ils ont, en parenthèse, bien évidemment soumise. Ils ont dit « Julien, il vit avec sa femme en Floride. Bien évidemment, elle est soumise. » Ma femme, là, genre, est... J'ai jamais vu autant de caractères du haut de 5 pieds 2 en passant. Du caractère au pied carré, OK?
Mais d'où vient le terme soumis, s'ils l'ont mis entre guillemets, c'est qu'ils citaient de quelque part?
Ils citaient de ce que Joël a dit. Puis encore une fois, Joël, je comprends de où il essaie de... Tu sais, qu'est-ce qu'il essaie de dire, c'est si tu te soumets à Dieu, ta femme pourrait se soumettre à toi. Puis il ne dit pas d'un angle péjoratif. Je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est si tu es un homme vertueux, ta femme pourrait avoir confiance en toi. Mettons.
OK. Mais elle peut se soumettre directement à Dieu. Elle n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire de son homme pour avoir une relation à Dieu. C'est ça qui est comme...
100%. Mais tu sais, encore une fois, je ne me prononce pas sur son discours. C'est même pas le mien.
Oui, c'est ça. C'est pas le tien, c'est ça.
C'est même pas le mien, mais ils ont mis ça dans le journal puis ils ont mis le nom de mon fils. Ça, hein? Ça a été... Ouais. Puis ça, là, ça a été le moment où j'ai fait « OK, vous avez dépassé une ligne. Là, vous avez vraiment... »
Oh my God, tellement, ouais.
Puis c'est là que je suis arrivé avec une énergie. Oui, je suis arrivé avec une énergie de guerrier, mettons, à tout le monde.
Mais t'es attaqué en même temps, puis t'es attaqué sur ton territoire, là.
Puis je sais où est-ce qu'on s'en va. Je sais que ça va être un dîner de con, vous venez de m'affaire. Fait que moi, je suis arrivé là, puis en passant, n'importe qui écoute le truc, j'ai été hyper calme, hyper posé. La personne qui a pogné les nerfs, c'est Alexandre Aussin quand je l'ai challengé. Lui, il a perdu les gonds bien raides.
Non, mais lui, il est dans une posture de victime fois 1000. Puis en plus, il y a comme l'univers derrière lui, en tout cas l'univers médiatique, fait qu'il est comme renforcé dans cette posture-là. C'est toxique au bout, là, ce qui se passe.
Mon énergie, là, c'était un guerrier lumineux dans l'amour, mais ferme. Là,
mais qui n'est pas là pour se faire des amis non plus, parce que clairement, tu n'avais pas des alliés sur le plateau. Même le réalisateur ne t'a pas défendu. Là.
Ils ne seront pas mes amis. C'est ça que j'ai fini par réaliser. Puis même Simon, là, tu sais, encore une fois, les gars, ils me demandent de dénoncer des affaires. Okay? Simon, il était en train de partager des articles de certaines personnes qui écrivaient puis qui disaient tout le monde dans le documentaire, c'est des gens qui détestent fondamentalement la femme, puis ils sont tous racistes, ils sont tous homophobes, puis ils sont tous ci, puis ils sont tous ça. Puis je l'ai vu partager ça. J'ai dit, Simon, c'est vraiment ça que tu penses de moi? Il dit, ben non. Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, vous me demandez de dénoncer les propos de d'autres personnes dans le documentaire que je ne connais pas, alors que toi, tu as fait un documentaire sur moi, tu me connais, il y a des gens qui disent des propos diffamatoires, puis tu partages pour, dans le fond, avoir des vues. Fait qu'il est, encore une fois, double standard. Genre, vous allez me demander de dénoncer des affaires, mais vous n'êtes toutes pas capables de dénoncer ça ici et maintenant, alors que vos propos diffamatoires que vous partagez ensemble, ça me cause du tort, puis dans le fond, ça l'intimide ma femme, qui n'a rien à voir là-dedans. Je suis comme, OK, on n'est pas des amis, là. Vous n'avez pas envie d'être mes amis, vous n'avez pas envie non plus d'essayer de me comprendre, vous essayez de faire un move politique de dénonciation, puis je trace la ligne, ça suffit.
Ben, puis c'est ça qui est dommage, puis je pense que c'est ce qui fait, en tout cas, ça a fait beaucoup réagir, particulièrement sur X. T'sais, moi, c'est sûr, je suis sur toutes les plateformes, fait que je vois C'est sûr, sur Instagram, là, il y a beaucoup de monde qui m'écrivait pour me dire « Oh my God, là, la gauche s'emporte, puis le monde est comme outré qu'il y a eu une tribune. » Puis moi, c'est sûr que le monde qui me suit puis que je suis, c'est pas des gens qui ont ce discours-là, c'était des gens qui étaient vraiment contents d'avoir pu entendre quelqu'un à Tout le monde en parle, qui partage vraiment. Tu sais, Tout le monde en parle, ça fait longtemps que c'est la messe de la pensée unique. Là. Fait que ça faisait du bien d'avoir, tu sais, déjà que tu as pu avoir un banc à l'émission de Pénélope puis un banc à l'émission de Tout le monde en parle, c'est déjà quelque chose. Malheureusement, ils ont tout fait pour te faire mal paraître, OK, mais au moins, tu sais, même le documentaire, quand j'ai vu c'était qui le producteur, je vais le dire, là, c'est quand même le producteur de Tout le monde en parle. Fait que c'était assez évident qu'il y aurait un angle très, très, très de gauche. Puis c'est moi, tu sais, qui est full ouverte, j'écoutais ça avec la plus grande ouverture. J'étais assez choquée par moments de bien des affaires qui se sont dites parce que c'était tellement. On aurait dit, tu sais, si ça avait été une toile, là, j'aurais dit, c'est comme un bricolage fait par un enfant, là, des gros blocs. Là, tu sais, il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune subtilité, il n'y a pas de lien. On voit que c'est hors contexte. Puis, tu sais, c'est sûr que oui, c'est choquant, voir un. C'est choquant, là, je le mets en guillemets, là, ça m'en prend quand même plus que ça pour être outré, mais de voir un gars à l'église s'agenouiller devant le Christ, c'est pas forcément des choses qu'on voit tous les jours au Québec. Mais il y a un retour de ces valeurs-là, puis je pense que c'est important de le comprendre. J'aimerais ça qu'on parle un peu de Dieu, justement, puis de tout ce retour à la religion, à la Bible. Est-ce que, pour moi, là, tu sais, mettons, si je me mets en posture de quelqu'un qui a regardé le documentaire, c'est quasiment un cliché. T'sais, c'est quasiment, OK, tu as décidé de devenir le conservateur typique américain, religieux, avec le drapeau des États-Unis, tu tires du AR-15, puis tu tripes sur Donald Trump. Pourquoi c'est un amalgame? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour à Dieu là-dedans?
L'amalgame, c'est qu'on fait on fait une espèce d'archétype de l'homme qu'on aime détester là, au Québec. Là. On déteste les armes à feu, on déteste Trump, on déteste Dieu, on déteste tout ça. Puis moi, je suis le parfait archétype de genre, je suis un peu tout ça, mais par contre, j'ai la prétention de dire, oui, je suis tout ça, mais je ne suis pas le diable incarné, puis vous devriez peut-être essayer de me comprendre parce que je ne suis pas le seul. Puis il y a un retour cyclique de plus en plus de gens qui pensent de même, puis en passant, je suis un gars de gauche à base. Tu sais ce qu'on voit?
En plus, c'est ça.
Mettons, pour revenir sur Dieu, c'est vraiment drôle parce que quelqu'un qui est venu dans ma bibliothèque, il dit, ah, t'as une Bible, fait que toi, tu crois en Dieu. Puis après ça, il est tout de suite flippé sur l'autre scène où est-ce que là, après ça, il y a Joël qui s'agenouille, Dieu, etc., etc. Puis là, ils font une espèce d'amalgame où est-ce que dans le fond, c'est comme si moi, j'étais 100% d'accord avec les propos qu'il a dit, puis on est les deux, dans le fond, une seule et même personne parce que les deux, on écoute Dieu.
Et attends, mais il faut dire que vous vous ressemblez aussi. Je pense qu'il y a ça, tu sais, vous avez comme un peu le même physique, fait que ça crée une confusion aussi à l'écran. On n'a pas forcément le temps de s'habituer, fait que c'est ça, ça brouille les cartes.
Ma réponse par rapport à Dieu, là, c'est qu'en 2024, j'ai demandé de trouver. J'écris mes goals à chaque année, là, puis un de mes goals de 2024, c'était de trouver ma relation avec Dieu. OK? Mm-hmm. Puis honnêtement, je ne sais pas si j'aurais dû demander ça parce que j'ai eu la pire année de toute ma vie.
Ah ouais, les défis.
Pas la pire année, mais l'année la plus challengeante de toute ma vie. Puis, mais honnêtement, j'ai trouvé une foi en moi, une force, genre comme je pensais que j'étais déjà fort, mais un autre niveau cette année. Fait que tant mieux, mais à travers tout ça, puis c'est la conversation que j'ai eue avec lui, puis ça, bien évidemment, ils ne l'ont pas montré, mais je me suis intéressé un peu à toutes les religions abrahamiques. Donc, toutes les religions, mettons, juifs, chrétiens, islam, toutes les religions qui ont comme la même descendance, puis qui reconnaissent un peu les mêmes prophètes. Puis ma conclusion de tout ça, c'était que je n'ai pas besoin d'une institution entre moi et ma spiritualité. Que oui, il y a probablement une chose qui nous unit tous. Puis honnêtement, quand tu regardes la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, il y a bien des affaires qui ne fonctionnent pas. Puis à un moment donné, tu peux te dire, you know what, peut-être que cette espèce de théorie-là, qui a une intelligence qui a créé tout ça, est peut-être plus logique. Mettons, puis on pourrait embarquer dans tout ça, là, mais il y a plein d'études qui ont. La théorie de Darwin, il y a plein d'études qui.
De plus en plus débunkées, en tout cas. Oui, on parle d'un consensus, mais comme. Et puis c'est intéressant d'écouter les autres.
Non, exact, c'est ça. Il n'y a pas tant que ça un consensus. Fait que, bref, tout ça fait que je suis ouvert à l'esprit. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai la réponse à tout, puis que j'ai eu une conversation avec Dieu, puis il m'a tout ouvert ça, mais mon but, c'est de trouver une relation avec Dieu. Je me suis intéressé à certaines religions. Ma conclusion, c'est que je n'ai pas besoin d'une institution entre moi et ma spiritualité. Puis le message qui se rapproche le plus de ça, c'était le message de Jésus où est-ce qu'il disait, ben, c'est pas parce que tu manges pas de merci, un vrai chrétien a besoin de l'Église. Exact. C'était pas parce que tu manges pas de porc ou que tu suis les espèces de routines qu'on te demande que ça veut dire que tu vas être un bon humain et que tu vas aller au paradis. Dans le fond, ce qui va faire que tu vas aller au paradis, c'est traiter les autres comme tu aimerais être traité. Puis ça, là, je te le dis. Mettons, le why de ma business, c'est de traiter les gens comme j'aimerais être traité. C'est le golden rule, c'est genre qu'est-ce qui englobe tout mon message, les valeurs fondamentales que je partage, tout, tout, tout. Puis ça, c'était avant que j'essaie de trouver ma relation avec Dieu. C'était ça, traiter les autres comme tu aimerais être traité. Puis je pense réellement qu'il y a une loi de l'univers là-dedans, que si tu es un humain de qualité, you're gonna fucking win, puis ça va te revenir. Même si une fois de temps en temps, tu vas être pris avantage, comme les journalistes ont pris avantage de moi et m'ont instrumentalisé dans tout ça, tu comprends?
Mais c'est les lois de cause à effet. Tu sais, tu parles de la loi du karma, la loi de causalité. C'est en fait, c'est de revenir à une moralité objective et non une moralité relative. Moi, j'en parlais dans ma conférence pour ceux qui l'ont écouté, là, qui sont venus. Je pense qu'on est à l'ère où on doit reprendre conscience qu'on s'est fait vendre l'idée que la moralité était relative. Puis moi, j'ai appris cette année que c'était pas le cas. Puis je me considère comme une personne quand même assez instruite puis ouverte d'esprit. Puis j'ai fait, c'est vrai que c'est pas une question de géographie, puis c'est pas une question de dans les époques. La pédophilie, même si les Romains l'ont fait il y a plusieurs milliers d'années, c'était pas mieux à l'époque. Maintenant, on sait à quel point ça impacte le cerveau, le développement du jeune, puis tu sais, bon, bref,
le mal et le bien, ça existe, là.
Exactement, c'est ça, le mal et le bien, puis c'est le mal, le même qui était il y a 5000 ans et qui sera dans 10 000 ans, tu sais. Il n'y a pas de selon les époques ou selon où tu es, c'est correct de fumer du pot ou pas de fumer du pot. Tu sais, c'est pas ça, là. Si ça détruit, si ça va dans une optique de destruction, c'est le mal, puis si ça va dans une optique d'élever, de créer, c'est le bien, mettons qu'on résume simplement. Puis on est vraiment dans une société qui a complètement perdu, non seulement perdu, mais on a totalement inversé les valeurs. Fait qu'on est dans une société qui pense faire le bien. Tout le monde sur le plateau, tout le monde en parle, était convaincu d'être dans le bien. Puis il était en train de te coloniser ton esprit parce que toi, tu étais l'incarnation du mal. Puis c'est fascinant de voir ça aller quand nous, on a commencé à prendre un pas de recul puis de voir à quel point ça se passe, ce théâtre-là. Puis tu sais, je pense que les gens qui ont écouté le documentaire ou qui ont écouté Tout le monde en parle ou encore Pénélope, j'ai pas vu, qui ont jamais commencer à s'interroger ou à s'ouvrir à toutes ces nuances-là, puis qui sont juste dans une espèce de vision totalement binaire de la réalité. Puis binaire, j'entends vraiment dans le sens, là, tu sais, qu'il y a les méchants et les gentils, puis qu'eux, ils sont dans le bon clan, puis ils n'ont pas compris que Trump, finalement, est peut-être pas une espèce de fou furieux, dangereux, un pervers narcissique qui fait sa petite crise de 2 ans parce qu'il veut être au pouvoir, mais qui est en train de servir une cause beaucoup plus noble. Puis, tu sais, les gens qui se sont pas intéressés à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont voté pour Trump, comprendre pourquoi des gens ont décidé d'aller vivre en Floride, comprendre pourquoi des gens ont envie d'aller vers des valeurs plus conservatrices, ils écoutent ce documentaire-là, ils font une crise cardiaque. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Tu vas être ultra choqué parce que c'est comme s'il n'y a pas eu les petites bouchées. On y va directement avec le plat au grand complet. Là. Fait que tu ne peux pas le digérer. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est important d'avoir des discussions comme on a aujourd'hui parce que tu as le temps de t'exprimer. Je pense que tu es super nuancé. Je trouve que à peu près sur tout ce que tu dis, je te reçois, tu fais du sens. Puis je trouve ça dommage qu'on te fasse vraiment paraître comme un dangereux. Parce que pendant ce temps-là, il y a des Rocco Magnotta qui se font passer pour des femmes. Il y a le gars, le père qui a tué sa femme et ses 2 enfants qui vient d'être admis au centre Leclerc, un centre de détention pour femmes à Montréal. Il n'est pas le seul. Ce sont 3 hommes en ce moment qui sont dans ce centre de détention-là. J'ai des employés du centre qui m'ont écrit pour me témoigner comment c'est horrible. Comme même de travailler là pour les femmes, les agentes de services correctionnels, qui doivent faire des fouilles à nu sur ces gens-là parce qu'ils sont soudainement, ils se considèrent comme des femmes, mais ils sont 100% des hommes. Là. Alors, tu sais, pendant ce temps-là, on nomme pas vraiment les dangereux de la société. On n'est pas en train de mettre le doigt sur le vrai bobo. On passe à côté complètement. Excuse-moi, j'ai fait une longue tirade. J'en avais vraiment long à dire.
C'est correct, mais en passant, le point que j'ai le mieux aimé dans tout ce que tu as dit, c'est moi, je pensais, là, honnêtement, qu'il allait se poser réellement des questions. Parce que, mettons, le Pénélope,
mettons Pénélope puis Guilla, puis les gens à qui tu parlais, c'est ça?
Ouais, mais c'est parce que, tu sais, tu dis, le monde, il devrait se poser des questions de pourquoi Trump ci, pourquoi Trump ça, pourquoi il y a des gens qui s'intéressent à ça. Puis moi, dans le fond, là, quand j'ai rencontré Pénélope, c'était le lendemain de l'élection américaine. Puis honnêtement, je me suis dit que les plus gros perdants des élections, là, c'est pas les démocrates, c'est les médias. Parce qu'ils disaient que ça allait être une guerre hyper serrée, puis que les Gen Z aimaient Kamala Harris, puis au Québec, ils étaient encore plus dans ce délire-là. Puis ouais. Moi, j'ai regardé aller, puis j'étais comme, vous êtes vraiment déconnecté de la réalité, puis genre du sentiment du public. Puis je me suis dit qu'ils vont être assez intelligents pour comprendre que, holy shit, on était dans le champ. On était tellement dans le champ, puis honnêtement, on est en train de perdre notre influence, on est en train de perdre des codes d'écoute, les gens, ils écoutent de moins en moins. On devrait peut-être être humble un peu, puis se poser des questions, se remettre en question, puis essayer de s'intéresser. Moi, je pensais qu'il était assez intelligent pour faire ça, mais finalement, zéro. Là, tu sais
quoi, comme... Julien, je pense, je suis à la même place que toi, mais je pense qu'il y a une certaine dose de naïveté dans penser qu'ils font par hasard ce genre d'informations-là. Mmh. C'est 100% voulu. Fait qu'ils vont pas arrêter, ils ont pas le choix. Tu comprends? Ils doivent continuer dans cette lignée-là. Là, je vais sonner peut-être complotiste, mais si c'était vraiment juste un pur hasard qu'ils ont comme complètement échappé puis ils ont pensé que Kamala Harris était populaire puis dans le fond, ils ont pas compris, on serait dans une espèce de mea culpa de « Oh, OK, ben on va réajuster. » Mais il y a juste Stéphane Bureau qui le fait, puis Mathieu Bock-Côté quand même, qui a été aussi nuancé sur la question de Donald Trump. Mais sinon, c'est le silence. Ah, puis Jacinthe Eve Ariel. Mettons son 3 dans toute la sphère médiatique au Québec qui ont eu des nuances sur Donald Trump. Alors, de voir à quel point les médias continuent de taper sur le clou, ben ça, premièrement, c'est parce qu'ils vont vraiment, ils savent que ça s'en vient. Tu sais, on s'en va probablement vers une ère de grande révélation si Trump remplit ses promesses. Ouais. Fait qu'en ce moment, ils sont juste désespérés, là. C'est comme, ils sont en propagande à fond, là. Ils ont mis la propagande à fond.
On dirait que moi, je me dis, si t'es désespéré de même, là, il est peut-être temps que tu t'excuses pour tes péchés, puis tu comprends ce que je veux dire. On s'est trompé, puis écoutez, dans le fond, je sais pas, on dirait que j'ai...
Je comprends ton point.
Mon plus gros problème, là. Genre, puis la raison en passant pour laquelle j'ai perdu 1 million, c'est parce que je traite les gens comme j'aimerais être traité, puis j'ai tout le temps J'imagine tout le temps que les gens vont me traiter de même en retour. Puis honnêtement, là, je commence à être assez vieux puis assez mature pour réaliser que c'est faux, puis que ça n'arrivera pas, puis que les journalistes, ben, ils le feront pas, puis que c'est un peu les deux faces, puis tout ce qui vient avec ça. Mais ça, c'est mon défaut. Fait que oui, tu as probablement raison.
C'est plus une caractéristique qu'un défaut. Je pense que ça peut être la qualité de son défaut. Puis je suis super naïve aussi. Fait que, ben, naïve. J'ai envie de penser que les gens sont, ouais, c'est ça, tu sais, j'aime les gens, puis d'emblée, je vais faire confiance, là, je vais pas être comme Marina Bastarache, là, que je sais pas si t'as vu la vidéo qui disait qu'elle a peur des hommes. T'as-tu vu cette vidéo-là? Quand t'es face à un homme blanc, tout de suite, là, je suis pas bien. Oh my God! Avec un gay, je me sens bien. Avec une fille, je me sens bien. Mais tout de suite, quand il y a un homme blanc, tu sais, comme si l'homme blanc est quel lobotomie collective, les médias ont fait, surtout à ceux qui sont dans la sphère publique, parce que j'ose croire que c'est pas tout le monde qui adhère à ce discours-là, mais...
Et juste l'affaire de l'ours? Juste l'affaire de l'ours? Préférais-tu être avec un ours ou un homme dans
Dieu,
une forêt?
Ah mon Dieu! Mais oui, c'est quoi ça?
As-tu déjà vu un ours, ça fait quoi dans une forêt?
Tu sais, mettons, genre, ça va te déchiqueter. Tu as vécu cette situation-là pour la vie.
Ça va te déchiqueter, ça va te manger, t'es morte. Ah ouais. For sure, il n'y a pas un ours qui ne va pas te tuer et te manger, genre... Fait comme dans quel monde de détractés vous vivez pour penser que...
Ça va être mieux avec un ours sur une île déserte qu'avec un homme blanc. C'était ça, là.
Fait que le parallèle que vous êtes en train de faire, c'est qu'on est des bêtes sauvages.
C'est ça.
Genre, je trouve que ça va loin un peu, là. Puis c'est leur principe de discrimination positive. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique en quoi la discrimination, ça peut être positif. Puis en quoi
façon.
Too wrong make you right. Tu sais, tu comprends? Genre, une discrimination, on n'en réglera pas une. Genre, ce n'est pas ça, la solution. C'est plutôt ce que j'essaie de dire comme message, qui est, on est une équipe, on travaille ensemble, on est complémentaires. Moi, je pense pas que l'homme et la femme sont en compétition. Je pense honnêtement qu'encore une fois, puis c'est drôle, hein, parce que dans le documentaire, ils disent que le masculiniste, c'est par définition antiféministe. Puis que c'est par définition, dans le fond, le fait de vouloir assevir la femme. Mais quand tu regardes la définition dans le dictionnaire, c'est que les masculinistes veulent l'égalité avec les femmes. Les féministes, ils veulent l'égalité avec les hommes. On peut-tu s'appeler des humanistes sacrement, genre? Puis se dire qu'on veut juste être tous dans le même bateau, puis s'entraider, puis profiter des forces de l'autre pour pallier à nos faiblesses?
Vraiment. Bien, je pense qu'on va retourner vers ça, parce que là, tu sais, c'est comme si le féminisme est allé tellement loin que c'est rendu de l'anti-homme. Pour certaines, là, moi, je m'identifie comme une féministe parce qu'en ce moment, je pense que les droits des femmes sont menacés. Et pas par Donald Trump, là, pour être clair, vraiment par les politiques de gauche. Puis,
mais encore une fois, excuse-moi de te couper, mais non, mettons, non, on embarque sur Mona, là. Encore une fois, mettons, double standard, OK? En quoi, moi, le fait que je fais des stéréotypes entre le rôle de la femme, c'est dénigrant de la femme, mais t'as un homme qui est un drag queen, puis un drag queen, par définition, c'est un homme qui s'habille et qui imite les manières et les gestuels d'une femme selon ses stéréotypes. En quoi ça, ce n'est pas dénigrant, mais moi, les stéréotypes que je fais le sont.
Oui, mais à fond. Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que t'as beau avoir...
Il prend
avoir
la place des femmes sur le marché du travail, puis il prend la place des femmes sur le showbiz, puis il représente la femme, puis les femmes sont là, puis ils l'acclament, puis je suis comme... Ouais. Vous n'êtes pas battu pour avoir cette place-là, genre? Je comprends pas.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que tu as beau essayer d'avoir une conversation intelligente avec des gens qui s'affichent comme étant logiques et intelligents, tu t'aperçois qu'il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison. C'est de la grosse dissonance cognitive. Moi, j'ai vraiment une théorie qu'il y a une notion d'hypnose dans la société en ce moment. C'est pour ça que mon logo d'Hello veut savoir, c'est un œil sous hypnose avec une barre de travers. C'est contre l'hypnose collective parce que je suis vraiment convaincue que notre société est sous hypnose. C'est pas normal que quand tu essaies de les amener à juste admettre des choses hyper logiques, simples, que ça les amène dans plein de raccoins, ils partent, ils sont pas capables. C'est juste impossible d'avoir une discussion avec des gens qui ont adhéré à ces idéologies-là. Fait qu'en ce moment, la discussion est difficile, mais tu as fait quelque chose d'important, tu as accepté l'invitation à Tout le monde en parle, tu savais que ça allait être tough, tu n'as pas l'habitude non plus d'être sur des gros plateaux, comme on parle du plus gros plateau talk show au Québec, c'est pas ordinaire. Fait que tu sais, je trouve que tu as relevé le défi haut la main, dans le sens que tu as fait vraiment ce que tu pouvais avec les armes qu'on t'avait données. Puis tu sais, je pense que, puis je veux aussi te remercier d'avoir accepté, et on pourrait, je te réinviterai, on pourrait parler vraiment, je trouve ça super intéressant tout ce que tu dis. Il y a plein de choses à discuter, mais tu sais, je pense qu'une heure, c'est un beau format pour tout le monde. Les gens sont vraiment très appréciatifs dans les commentaires. Ça fait plaisir de t'entendre pouvoir te nuancer. Je trouve que, je te trouve super brillant, puis tu sais, bonne chance dans ce que tu vis, le défi des dettes que tu traverses. C'est pas le fun que ce soit exposé au grand jour comme ça. Ce serait le fun à la plate qui expose la corruption entre le gouvernement et, mettons, Nordvolt, tout ce genre de choses-là. Mais sinon, à la place, on parle d'un gars qui a 7000 abonnés sur Instagram, puis on fait son procès dans le Journal de Montréal, puis tout le monde est au courant de tes états financiers maintenant. Fait que c'est un peu... Moi, je constate que c'est de la diffamation un peu réduite. Mais c'est vraiment, Francis Pilon ne fait que ce genre d'article-là. Grand prix du Québec. It is what it is. Mais c'est ça notre Québec en ce moment. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec.
Écoute, honnêtement, là, moi, je pensais... parce que je trouve ça un peu... Ce que je trouve déplorable dans tout ça, c'est qu'en vrai, mon message, ça devrait être un message de résilience et d'encouragement. Tu sais, dans le fond, c'est le gars qui fait face à, genre, une situation... Hey, tu regarderais un itinérant dans la rue, le gars, il vaut 1 million de plus que moi à l'heure actuelle. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je suis là encore à me battre, à aller au-devant, à aller à Tout le monde en parle, à faire avancer mon entreprise, à payer tout le monde. Genre, on devrait me lancer des fleurs. Mais you know what? Je m'y attends pas, puis c'est correct. Puis c'est, I don't give a shit, mais je te remercie de me donner la parole. Je te remercie de m'inviter sur ta plateforme. Puis je te remercie d'être qui tu es, puis tous les beaux compliments que tu m'as fait. Je t'y retourne. On a besoin de ta parole. T'es crissement éloquente, tu t'aimes vraiment bien. Tes idées sont vraiment alignées. Ton vidéo que tu as faite, j'ai trouvé malade. Tu as tellement bien exprimé en peu de mots. C'était quoi la situation? J'ai trouvé ça brillant. Merci. Keep it up.
Merci. Ben, merci. Je vois que tu me suivais déjà. Fait que, puis en passant, je suis rendue sur TikTok depuis cette semaine. Fait que tout le monde en parle. Ça fait des années que le monde me dit que c'est vrai sur TikTok. Mais voilà, ça a été fait. D'ailleurs, je finis en disant à tout le monde qui a apprécié, s'il vous plaît, mettez un pouce par en haut, partagez, commenter. C'est vraiment, je pense qu'il est temps que les médias alternatifs reprennent une bonne part du gâteau de la sphère publique parce qu'on voit à quel point les médias sont mal intentionnés. Fait que si vous avez confiance, sachez qu'on est toujours contre les algorithmes quand on fait du contenu à contre-courant. Ça aide vraiment beaucoup si vous partagez à des gens que vous savez qui pourraient apprécier la discussion que je viens d'avoir avec Julien, le contenu que je fais sur Hello veut savoir. Donc, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment la meilleure façon de me supporter. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne Hello, ben sur mon site web, helloveutsavoir.com. Vous pouvez rejoindre ma communauté d'abonnés VIP. C'est 49 par mois ou 65 par année pour soutenir mon travail. Alors voilà, merci Julien, je te souhaite la meilleure des chances dans ton entreprise, puis surtout avec la famille parce que c'est vraiment ça qui est le plus important.
Merci à toi.
Merci, bonne journée à tout le monde.